en séance. Une émission de la rédaction de Canal Académie.
Gilles de Robien, ministre de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche depuis juin 2005, est venu prendre la parole en grande salle des séances devant les membres de l'Académie des sciences morales et politiques le 5 mars 2007. Poursuivant le dialogue entre son ministère et les 5 académies du Quai Conti, il a annoncé officiellement le projet de création de l'Institut des Amériques. En présence d'académiciens, d'ambassadeurs, de présidents d'universités, de recteurs, d'une vingtaine de représentants d'institutions et de centres de recherche et de nombreux invités, le projet d'un Institut des Amériques a été lancé. L'Institut des Amériques a pour objectif de donner une visibilité internationale à la recherche française. Il permettra de renouveler l'approche des questions transatlantiques. La conférence du ministre Gilles de Robien a été introduite par le secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences morales et politiques, Michel Albert. Canal Académie vous propose d'écouter la retransmission de cet événement. Écoutons Michel Albert, puis le ministre Gilles de Robien.
Monsieur le ministre de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, monsieur le recteur, chancelier des universités de Paris, mesdames et messieurs les ambassadeurs, messieurs les présidents d'université, madame la présidente de l'École des hautes études en sciences sociales, madame la directrice de l'École normale supérieure, monsieur le directeur de l'Institut d'études politiques de Paris, mes chers confrères, mesdames, messieurs, c'est un grand honneur pour nous de vous accueillir si nombreux aujourd'hui pour assister à la conférence que Monsieur le ministre a décidé de faire devant notre Académie pour annoncer le lancement officiel de l'Institut des Amériques. Je me réjouis de voir que tous les protagonistes de cet ambitieux projet rassemblés ici même, ainsi que les représentants des différents pays du continent américain. Je vous remercie, Monsieur le ministre, de me donner ainsi l'occasion de vous remercier, car votre passage au ministère aura représenté un événement historique pour l'Institut de France et les académies qui le composent. Il y a encore un an, Monsieur le ministre, j'aurais accueilli en votre présence le représentant de la tutelle qui s'exerçait sur notre établissement. Or, depuis le 18 avril 2006, date de la loi Programme sur la recherche, grâce à votre soutien, le statut de notre Académie, ainsi que des 4 autres qui composent l'Institut de France, est clarifié, non pas modifié, mais simplement rendu conforme à l'originalité de nos institutions. Voici ce que dit cette loi, dont vous êtes dans une large mesure l'auteur. L'Institut de France, ainsi que l'Académie française, l'Académie des inscriptions et belles-lettres, l'Académie des sciences, l'Académie des beaux-arts et l'Académie des sciences morales et politiques qui le composent, sont des personnes morales de droit public à statut particulier placées sous la protection du président de la République. Et l'article suivant, l'Institut et les académies s'administrent librement. Leurs décisions entrent en vigueur sans autorisation préalable. Ils bénéficient de l'autonomie financière sous le seul contrôle de la Cour des comptes. Cette clarification, pour autant, ne rompt nullement le lien qui existe par nature entre les académies et, pour reprendre le langage de nos fondateurs, l'instruction publique. Ainsi, la loi précise les missions de service public qui sont les nôtres. Les académies et l'Institut ont pour mission de contribuer à titre non lucratif au perfectionnement et au rayonnement des lettres, des sciences et des arts. Je comprends, Monsieur le ministre, votre venue aujourd'hui comme une reconnaissance, j'espère du moins, de notre utilité sociale. Déjà, lors de votre récente visite à l'Académie des sciences, vous aviez mentionné le livre que notre compagnie vient de faire paraître et que voici, la France prépare mal l'avenir de sa jeunesse. Il s'agit d'une étude fondée sur des données scientifiques établie par les chercheurs de la Nouvelle École d'économie de Paris et qui vise à mettre en lumière pour un large public ces maux dont souffre notre société. La publication de rapports adressés tant au pouvoir public qu'aux citoyens est dans la tradition de notre compagnie, sans remonter au célèbre rapport Villermé qui conduisit au vote de la première loi sociale en France. Je citerai le rapport de notre confrère Bertrand Saint-Cernin sur l'illettrisme qui parvenait à des conclusions sur la lecture globale similaires à celles que vous avez eu le courage de mettre en œuvre et dont notre président a récemment montré dans un article de presse la portée considérable. Car telle est sans doute la principale mission de notre compagnie, diffuser largement, non pas tant des idées et des théories nouvelles, qu'un savoir assuré, utile à tous et nécessaire au bien commun. Cet effort de diffusion, nous le menons de manière redoublée depuis l'avènement des nouvelles technologies de l'information, grâce à l'action de mes prédécesseurs, messieurs Pierre Messmer et Jean Cluzel. Nos travaux sont dorénavant très consultés sur notre site www.asmp.fr, Académie des sciences morales et politiques.fr, ainsi que sur la radio académique sur Internet, dirigée par monsieur Jean Cluzel. De même, les travaux réalisés en 2005 sous la présidence de notre confrère monsieur André Damien pour le centenaire de la loi de 1905 sur la séparation des églises et de l'État seront dans les semaines qui viennent disponibles sur DVD-ROM avec une interface spécialement conçue pour le monde scolaire. Nos missions, nous les assumons aussi et surtout grâce à la générosité des personnes qui ont décidé de créer des fondations abritées par notre institution. Nous décernons grâce à eux chaque année une cinquantaine de prix et de subventions dans tous les domaines des sciences humaines et sociales. Parmi ces fondations, j'en citerai deux qui ont pour objet direct l'enseignement et la pédagogie, la Fondation pour le progrès en éducation, d'une part, et d'autre part, la Fondation Louis Cros. Ce sont de telles initiatives privées qui nous permettent, en l'absence de dotation propre, d'œuvrer pour l'intérêt général. En cela, nous recevons une aide très précieuse de votre ministère. Si on ne peut négliger la subvention de fonctionnement qui permet à notre académie d'assurer les frais courants engendrés par la vie dans le palais, l'aide majeure que nous recevons de vous réside dans l'affectation de postes de l'éducation nationale dans notre établissement, en particulier de postes de professeurs. Je ne saurais trop vous remercier de l'avoir si bien compris que vous avez décidé de créer cette année un second poste de Prague. Que le lancement de l'Institut des Amériques sous les auspices de notre vénérable maison soit pour lui un gage de réussite et de longévité. Oui.
Monsieur le secrétaire perpétuel, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les académiciens, Monsieur le Chancelier, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, Monsieur le Recteur Chancelier, Mesdames et Messieurs les Présidents d'Université, Mesdames et Messieurs, c'est toujours pour moi un véritable plaisir et évidemment un grand honneur que de pouvoir prendre la parole à l'Institut de France devant une assemblée qui rassemble les plus beaux esprits et les savants les plus respectés de notre pays. Je voudrais redire devant vous tout le profond respect qui est le mien pour les cinq académies qui forment l'Institut de France et aussi toute l'importance que j'accorde à leurs recommandations. Tout récemment, j'ai reçu l'avis de l'Académie de sciences concernant l'apprentissage du calcul et c'est en me fondant sur cet avis que j'ai élaboré la circulaire d'application que je vais présenter après-demain sur ce sujet essentiel, évidemment pour tous les élèves de France. J'ai souhaité associer étroitement plusieurs académiciens, scientifiques ou littéraires aux rénovations pédagogiques que j'ai engagées. Je pense, par exemple, à la réécriture des programmes pour laquelle j'ai sollicité Marc Fumaroli de l'Académie française, et aussi le professeur Jean-François Bach, secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences. Je pense aussi à la réforme de la grammaire à laquelle j'ai associé Éric Orsenna. Je suis intimement convaincu que les académies ont plus que jamais un rôle déterminant à jouer dans l'avenir de notre système éducatif. Vous avez d'ailleurs prouvé l'intérêt que vous portiez aux questions éducatives en faisant paraître une importante contribution sur l'avenir de notre jeunesse. Que les avis des académies puissent peser sur le débat public et sur l'orientation des politiques, cela me paraît non seulement justifié ô combien par votre science et votre autorité, mais aussi grandement souhaitable. Car à une époque où prolifèrent les demi-vérités, les avis infondés, à une époque où la moindre opinion peut avoir son quart d'heure de célébrité, il est bon que la voix des académies puisse se faire entendre. En venant prendre la parole devant vous, je souhaite poursuivre le dialogue entre mon ministère et les académies et vous présenter un grand projet scientifique qui, je crois, doit mobiliser les autorités académiques et intellectuelles de notre pays. Ce projet, c'est l'Institut des Amériques. Je n'ai pas besoin de vous rappeler le rôle éminent que la France a joué dans l'invention des Amériques comme objet d'étude et de réflexion. Le mot même d'Amérique a été inventé en France, il y a 500 ans exactement, à Saint-Dié-des-Vosges. Et dès ce moment, l'Amérique est, pour l'esprit français, autant une idée qu'un territoire. Et c'est d'ailleurs encore en France, à Paris cette fois, au début du Second Empire, que fut imaginée la notion d'Amérique latine. La France a ainsi projeté sur les Amériques ses concepts, ses visions, ses idéaux. En consacrant en juin 2005 une séance interacadémique exceptionnelle à Alexis de Tocqueville, vous avez rappelé toute l'importance et l'actualité de cet auteur qui est l'un de mes préférés. Nous savons tous ce que ce penseur exceptionnel a apporté à l'analyse de la démocratie américaine, mais aussi en retour à l'analyse de la France. Il a apporté l'une des plus belles illustrations des beaux fruits que nous pouvons tirer de la comparaison entre les deux rives de l'Atlantique. Mais il n'y a pas que Tocqueville. Il y a tous ces grands savants et intellectuels français, souvent des académiciens d'ailleurs, qui consacrent ou ont consacré leur vie au continent américain. Et quel bel objet d'étude que ce continent. Car il ne s'agit pas seulement d'un objet physique, c'est en quelque sorte le condensateur de nos rêves et de nos utopies. Rêve des origines, lorsque la découverte des Amériques redonna son lustre au fantasme de l'homme primitif. Et c'est ainsi que les Amériques furent associées au premier balbutiement de l'anthropologie. Comme le disait Rousseau, érigé par Lévi-Strauss en père fondateur des sciences de l'homme, quand on veut étudier les hommes, il faut regarder près de soi. Mais pour étudier l'homme, il faut apprendre à porter sa vue au loin. L'horizon des Amériques fut précisément ce lointain vers lequel se tournèrent les regards de tous ceux qui, comme Montaigne, firent de l'homme l'objet de leur réflexion. Ce fut aussi l'horizon de ceux qui voulurent inventer une nouvelle façon pour les hommes de vivre ensemble, en réalisant l'idéal de liberté des Lumières. Dans toutes les Amériques, l'esprit du XVIIIe siècle français a circulé et a donné ses plus belles couleurs. La Révolution américaine et la Révolution française ont dialogué comme deux sœurs nées de la même idée de la primauté du droit naturel. Les indépendances latino-américaines sont nées dans l'évocation permanente de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, traduite par le grand Antonio Nariño. L'amitié franco-américaine, c'est alors Jefferson s'écriant « Tout homme a deux patries, la sienne et la France ». C'est Bolivar séjournant en France au temps de Napoléon et puisant à diverses sources les ferments de son génie libérateur. De cette époque est née une entente réciproque et indéfectible entre nos jeunes républiques éclairées par un soleil de juillet. L'esprit de progrès n'a cessé d'inspirer ensuite l'ensemble de nos relations. La fécondation mutuelle des universités a été et reste une grande réalité. Le cas de la naissance de l'université de Sao Paulo dans les années 30, par l'appui de jeunes universitaires appelés à devenir les grands noms des sciences humaines françaises, n'est que le plus emblématique aujourd'hui encore. De multiples accords scellent cet esprit de coopération. J'en veux pour preuve l'espace d'enseignement supérieur Union européenne Amérique latine Caraïbes, qui vise à créer de véritables ponts entre nos diplômes et dont l'Institut des Amériques devra être un fer de lance. Aujourd'hui encore, les Amériques cristallisent nos rêves. C'est le fameux rêve américain. Mais au-delà des souvenirs, des rêves et des constructions théoriques, les Amériques constituent aujourd'hui une formidable réalité physique, politique et culturelle que caractérise une grande diversité. L'Institut des Amériques a justement vocation à être le lieu où se concentrera la recherche française sur cet objet polymorphe en perpétuelle mutation. Car parler des Amériques, c'est d'emblée risquer le jeu de l'unité et de la diversité. Il y a bien sûr la grande distinction entre l'Amérique latine, d'une part, les États-Unis et le Canada, d'autre part, et cette distinction a vocation à structurer un institut comme celui-là. Mais cela ne doit pas faire ignorer le caractère pluriel et mélangé des Amériques. De la Terre de Feu au Rio Bravo, du Rio Bravo à l'Alaska, les histoires nationales, les processus identitaires, les réalités économiques sont multiples. La France elle-même a une histoire très riche sur le continent américain. Du Québec aux Antilles, de la Louisiane à la Guyane, la France a porté sa destinée sur des terres qui sont riches à son cœur. Aujourd'hui, les départements français des Amériques ont un avenir qui passe par leur capacité à jouer un rôle d'interface entre l'Europe et les Amériques. Les évolutions les plus récentes accentuent les convergences américaines. Amérique latine et Amérique septentrionale s'interpénètrent de plus en plus. Les migrations hispaniques aux États-Unis en sont l'illustration la plus marquante. Cette minorité compte près de 40 millions de personnes, dont plus de 7 millions d'électeurs qui influencent l'évolution de la culture américaine. La langue, l'art, ainsi que l'économie et bien sûr la politique. Principale minorité de la principale puissance du monde, les Latinos des États-Unis, sont le ferment d'une évolution intérieure et extérieure majeure. Ils ont pesé sur les dernières campagnes présidentielles. Ils influenceront aussi de plus en plus la politique étrangère des États-Unis. Lorsque l'on travaillera sur la relation transatlantique dans le futur, on parlera de plus en plus du triangle atlantique pour tenir compte du poids grandissant de l'Amérique latine dans le monde occidental. Ce sera vrai sur le plan politique, mais aussi ça sera vrai sur le plan économique. D'ores et déjà, le commerce avec le Mercosur atteint une taille significative. Sait-on que nos investissements au Brésil sont plus importants encore que nos investissements en Chine? Ces phénomènes d'intégration et de différenciation sont donc autant de champs d'études passionnants que l'Institut des Amériques pourra prendre en charge et fédérer. Je voudrais insister un instant sur ce dernier point qui contribue à justifier la création de l'Institut des Amériques. Bien sûr, de nombreuses équipes de recherche étudient déjà les Amériques et dans de nombreuses disciplines, l'histoire, la géographie, l'ethnologie, l'anthropologie, les relations internationales, l'économie, la science politique, le droit, etc. Mais ce qui fait toujours cruellement défaut à la recherche française, c'est un lieu qui puisse concentrer autour de l'objet Amérique l'ensemble des recherches qui lui sont consacrées. Aujourd'hui, comme vous le savez, la recherche française accomplit un immense effort pour regrouper ses forces au sein de structures fédératives comme les pôles de recherche et d'enseignement supérieur ou les réseaux thématiques de recherche avancée. J'en profite pour remercier la commission présidée par Jean Dercourt de l'Académie des sciences qui nous a donné la capacité à apprécier les différents projets, même parfois à les faire évoluer, comme c'est le cas en l'espèce. Le projet d'Institut des Amériques s'inscrit dans le même effort, le même esprit, faire travailler ensemble les chercheurs qui se consacrent à un même objet d'étude, pour gagner en efficacité, pour créer des synergies et pour atteindre une visibilité suffisante sur le plan international. Il répond d'autant plus à l'esprit de cette loi qu'il provient de la communauté des chercheurs concernés qui ont développé cette idée depuis 1998 sous l'œil bienveillant de mes prédécesseurs, Claude Allègre, François Fillon, en passant par Jack Lang, Luc Ferry et bien sûr Xavier Darcos. Je suis heureux aujourd'hui de pouvoir donner l'impulsion décisive, celle qui permet de créer l'institution et de lui donner les moyens de son existence. J'ai souhaité le faire parce que je suis intimement persuadé que la France a besoin d'institutions de ce type. Ayant la masse critique nécessaire et la visibilité internationale nous permettant de compter scientifiquement dans le monde d'aujourd'hui. Les chercheurs proposent de se regrouper en un groupement d'intérêts scientifiques Institut des Amériques, à partir de l'élargissement de l'actuel GIS Amérique latine. C'est une formule pragmatique, concrète, qui doit permettre d'évoluer en quelques mois vers une fondation. Aujourd'hui, la recherche sur les Amériques est dispersée dans toute la France. Le but n'est pas, bien entendu, de tout rassembler en un seul lieu. Il s'agit plutôt de mettre en réseau tous les laboratoires de recherche autour d'une tête de réseau implantée à Paris. Il y aura donc 3 étages. Une grande bibliothèque médiathèque, des projets de recherche communs et des enseignements établis conjointement entre les universités partenaires. J'ai souhaité l'inscription dans le contrat de plan État-région à hauteur de 9 millions d'euros, des dépenses d'investissement nécessaires pour la réalisation d'un tel lieu. Je remercie la région Île-de-France pour sa participation qui traduit sa volonté de rayonnement international vers les Amériques, mais aussi sa politique en matière de bibliothèque universitaire. Le recteur chancelier de Paris a veillé personnellement à l'aboutissement de ce dossier, ce dont je le remercie aussi vivement, de même qu'à l'identification du lieu qui sera dans la grande aire universitaire Jussieu-Tolbiac en pleine évolution. Alors qu'aujourd'hui, il n'y a pas un lieu en France de concentration des ressources documentaires sur les États-Unis et le Canada. Alors que la superbe bibliothèque de l'Institut des hautes études de l'Amérique latine ne peut plus se développer, faute de place. La bibliothèque de l'Institut des Amériques permettra aux chercheurs et aux étudiants de disposer d'un instrument de travail efficace et rayonnant. L'abonnement aux banques de données sera un aspect décisif des premières réalisations et j'ai demandé que le site web de l'Institut des Amériques puisse rapidement offrir les services attendus à tous ses membres. Il s'agira donc de créer un vrai maillage international de lieux de recherche, associant autour d'un centre parisien des implantations dans les régions françaises et aussi des pôles installés sur le continent américain. Ce sont près de 20 établissements, l'Université de la Sorbonne Nouvelle, ayant joué un rôle moteur, ce dont je félicite son président, qui sont associés à ce projet qui pourront ainsi voir épanouir leurs actions en direction du continent américain. L'Institut des Amériques pourra d'ailleurs être un instrument pour l'ensemble des établissements français dans leurs relations transatlantiques. Car, soyons-en bien conscients, c'est une conception de la place et du rôle de l'université dans la société que je souhaite promouvoir au travers d'un tel projet. L'université n'est pas une citadelle. Elle est ouverte sur le monde. Lors de la crise internationale liée à la guerre en Irak, nous avons manqué d'un lieu tel que celui-ci pour que, au-delà des clichés et des incompréhensions, de vrais échanges intellectuels permettent d'éclairer le débat public. Dans un grand pays comme le nôtre, l'université doit jouer un rôle dans les grandes options internationales que prend l'État, mais aussi dans les stratégies des entreprises, des associations humanitaires. C'est en jouant ce rôle d'influence lié à la qualité de sa recherche que l'université peut bien préparer ses étudiants à la vie professionnelle. La qualité de la formation dépend de la qualité scientifique qui elle-même suppose une ouverture au monde. Il faudra un comité des amis de l'Institut des Amériques pour associer les États et les acteurs de la société civile à son développement. Mesdames et messieurs les ambassadeurs, vos pays pourront donc être des acteurs de la vie de l'institution. L'Institut des Amériques devra aussi travailler avec la Commission européenne et avec de grandes institutions internationales comme la Banque interaméricaine de développement. Pour l'étude des questions internationales, le projet d'Institut des Amériques préfigure sans doute d'autres regroupements à venir dans le paysage universitaire français. Il existe un projet d'école de relations internationales qui pourra certainement s'articuler avec l'Institut des Amériques. Sur l'Europe, l'Afrique ou l'Asie, de nouvelles synergies sont aussi à attendre. Et je sais d'ailleurs que le CNRS y est très attentif. Mesdames et messieurs, l'acte que nous vivons aujourd'hui est un acte de science et d'amitié. Je l'ai voulu solennel car il doit marquer une grande ambition scientifique pour l'université et pour la vie intellectuelle française en général. Je l'ai voulu collectif, car j'ai voulu marquer l'amitié qui doit unir nos pays. Je suis un homme de paix et je suis le ministre d'un État qui œuvre pour la paix. En voyant tous les ambassadeurs des Amériques que je réunissais il y a peu de temps pour échanger sur ce projet, je mesurais l'importance de l'enjeu et la chance que nous avons de pouvoir nous entendre pour aller vers un but commun. Le continent américain est souvent appelé le Nouveau Monde. Depuis sa découverte, il est le moteur mental et matériel de ce que l'on nomme aujourd'hui la mondialisation. Le grand défi de notre temps est de réussir cette mondialisation. C'est par le dialogue, l'équilibre, la compréhension mutuelle que l'on y parviendra. Permettez-moi de penser que le beau projet que je vous ai présenté, que j'ai eu l'honneur de vous présenter aujourd'hui, y contribuera. Je vous remercie.
Vous venez d'entendre la retransmission de la conférence du ministre de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Gilles de Robien, prononcée le 5 mars 2007 devant les membres de l'Académie des sciences morales et politiques. Ce fut l'occasion pour lui d'annoncer officiellement le projet de création d'un Institut des Amériques.